804. Et avant de lire le passage, je vais prier. Donc je vous invite à la prière. Voici un verset du chapitre 1. Sachez avant tout, aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier du fond de nos cœurs d'avoir inspiré cette parole par ton Esprit. Merci pour tous ces hommes qui ont parlé, qui ont écrit fidèlement ces paroles. Merci de l'inspiration de ton Esprit. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous donner ton Esprit ce matin. Puisse ton Esprit éclairer nos cœurs, appliquer ce message, cette parole à nos cœurs. Puisse l'Esprit faire son travail dans nos cœurs pour que nous puissions te connaître davantage, t'aimer davantage et suivre plus fidèlement ton Fils. Et nous te demandons toutes ces choses en son nom, au nom de Jésus. Amen. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qui vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, comme Michael a dit, on va terminer ce matin notre série dans 2 Pierre. Cette deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Et on sent que le ton de cette lettre est bien solennel. Parce qu'il s'agit d'un avertissement solennel. Pierre termine, on l'a lu, verset 17, en disant « Bien-aimés, bien-aimés, vous voilà avertis, avertis. » Le ton est solennel, mais bien fraternel en même temps. « Bien-aimés », il répète ça, « Bien-aimés ». Et quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On protège. On veut le meilleur pour celui qu'on aime. Si on voit le pire arriver, du genre une voiture, une falaise, un feu, une maladie, qu'est-ce qu'on fait? On crie haut et fort. Attention! Prenez garde! Prenez bien soin de vous. Et quand on entend ce genre de mots, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'arrête net. On ne sait pas forcément d'où vient le danger. On regarde tout autour. On essaie de repérer la personne ou la chose qui pourrait nous faire du mal. Et toutes nos facultés se concentrent sur ce danger clair et présent. Et c'est la même chose ici. Pierre voit bien le danger, un danger spirituel important. Et il a vraiment peur pour ces chrétiens à qui il écrit. Il ne veut pas qu'ils soient perdus. Il ne veut pas qu'ils soient éternellement perdus, éloignés de leur Seigneur et Sauveur. Et c'est pour ça qu'il écrit cette lettre, pour éveiller en eux une saine intelligence. On a lu ça au début, une saine intelligence, pour qu'ils se rappellent des paroles prononcées par les prophètes de l'Ancien Testament, les paroles prononcées par les apôtres du Nouveau Testament. Et nous aussi, bien des années plus tard, nous avons besoin de cet avertissement solennel. Nous avons besoin d'être rappelés à l'ordre. Nous avons besoin de penser sainement. Parce que bien trop souvent, un nuage de laisser-aller, un nuage de confusion, nous empêche de voir clair. Et quand on ne voit pas clair, on est plus facilement la proie de faux enseignants, de fausses idées, d'idées qui pervertissent le vrai évangile, celui que la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, nous a donné. Alors pour penser sainement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre préconise? Revenir sans cesse à cette parole, l'écouter, nous humilier et d'accepter ce qu'elle nous enseigne. Et ce matin, on va faire ça en trois temps. On va commencer en voyant la folie de celui qui rejette les promesses de Dieu, suivi de la bienveillance de celui qui tient ses promesses, Dieu, et finalement la sagesse de celui qui s'attache aux promesses de Dieu. Donc trois mots-clés, la folie, la bienveillance et la sagesse. On va commencer avec cette folie. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 7. Là, Pierre revient à ses faux enseignants, ces faux enseignants qu'il a décrits dans le passage d'avant, celui qu'on a vu la semaine dernière. Et cette fois-ci, Pierre détaille les croyances de ces faux enseignants. Et Pierre est venu montrer la folie de leur logique. La folie de leur logique. Il y a bien une logique séduisante, hein, mais c'est une logique folle. Et c'est la parole de Dieu qui nous protégera contre cette pensée-là, si nous nous soumettons à la parole. En fait, la parole nous protège en nous montrant d'abord que de telles personnes étaient bien prévues. Dieu n'est pas pris au dépourvu par ce genre de faux enseignants avec des paroles méprisantes. Non, la parole l'a prévu. La parole l'a annoncé bien des années à l'avance. Les prophètes, Ézéchiel, Michée, Jérémie, ces prophètes ont évoqué la venue de ces moqueurs. Qu'est-ce qu'un moqueur fait? Il se moque de Dieu, il se moque de sa parole. Il se moque des promesses de Dieu. Il se moque des personnes qui suivent la parole de Dieu. Ah, ils vont dire, vous êtes bien naïfs de suivre ces paroles. N'oublions pas que nous parlons ici de personnes qui sont à l'intérieur de l'Église. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. À l'extérieur de l'Église, parmi ceux qui ne croient pas, pas ce mépris et monnaie courante, on s'y attend. Mais, nous dit Pierre, ce danger si clair et présent vient de l'intérieur. Des personnes qui se disent chrétiennes, elles se disent, ces personnes disent qu'elles aiment Dieu, qu'elles ont l'esprit, qu'elles écoutent l'esprit. Mais on va voir qu'elles ne sont pas chrétiennes, ces personnes. Elles n'aiment pas Dieu. Elles n'écoutent pas l'Esprit de Dieu. Et on le sait parce qu'elles ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Elles bafouent la parole de Dieu. Et le verset 3 nous dit que ces personnes suivent leur propre désir. Voilà leur Dieu, voilà l'Esprit qu'elles écoutent. Alors, on a parlé de ces désirs la semaine dernière. Il s'agit de désirs très humains, des désirs pécheurs de nos cœurs, la convoitise sexuelle, la convoitise matérielle, la soif d'avoir l'approbation des autres, la soif d'avoir le pouvoir, de l'influence sur les autres. On va voir dans ce passage que leurs désirs ont dicté leur théologie. Leurs désirs ont réécrit, ont modernisé en quelque sorte, ont adapté, tordu les Écritures. Ils l'ont fait pour justifier leurs choix immoraux. Et ça, c'est quelque chose qui est très humain, très répandu. Aucune église n'est à l'abri de cette stratégie-là. On peut tous tomber très rapidement dans ce piège-là. Quand la culture s'attaque violemment à la foi chrétienne, au fondement de la foi, tôt ou tard, quelques enseignants qui se disent chrétiens, mais plus éclairés que les autres, ils vont faire surface dans l'Église, tôt ou tard, c'est inévitable, nous dit Pierre, et c'est bien vrai. Au XIXe siècle, la théologie dite libérale a essayé d'enlever tout ce qui relève du miraculeux de la Bible. Sans doute un désir de paraître intellectuellement éclairé a conduit ce mouvement vers cet abysse-là. Au XXe siècle, l'ardeur du mouvement féministe a conduit beaucoup à des choix théologiques et pratiques qui, à mes yeux, renversent ce que la parole dit de manière claire. Et actuellement, nous subissons de plein fouet une relecture psychologisée de l'Évangile, où l'accent n'est plus sur la croix, n'est plus sur la sainteté, n'est plus sur l'attente du retour du Seigneur, mais plutôt sur comment bien vivre aujourd'hui, comment vivre notre meilleure vie ici-bas, comment s'épanouir, comment aller bien, comment se réaliser dans les projets de nos vies. Et au XXIe siècle, ce siècle, sans doute la pression viendra de l'intérieur, de personnes à l'intérieur de l'Église, pour que nous mettions un peu d'eau dans notre vin concernant l'homosexualité et le mouvement transgenre. Et dans toutes ces choses, quel est le point commun ? On veut suivre nos désirs. Nous voulons bien paraître, ne pas nous exposer à la honte, ne pas être traité d'obscurantiste, sexiste, d'homophobe, de bigot. Et bien sûr, on veut vivre pleinement cette vie, on veut vivre pleinement le moment présent, profiter de la vie. Et on suit nos désirs. Et qu'est-ce qu'on fait ? On évacue l'enseignement clair de la parole. On essaye de réécrire l'ordre créationnel pour en instituer un autre, le nôtre. C'est de la défiance vis-à-vis de notre Créateur. C'est de la rébellion à l'égard de sa parole. Et ici, dans ce passage, ce qui est évacué, c'est le retour en gloire de Christ. Et c'est pour ça que nous lisons verset 3, « Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour ?» Autrement dit, ce retour, ça serait du grand n'importe quoi. « Oh, s'il allait revenir, disent ces faux enseignants, il serait déjà revenu. » Mais derrière tout ça, bien sûr, si Jésus ne revient pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de compte à rendre. Et donc, c'est la permission de vivre aujourd'hui pour soi, pour ce qui fait plaisir, pour ce qui semble épanouissant, pour ce qui semble profitable, selon nos désirs. En réalité, leurs désirs pécheurs ont dicté leur théologie, ce qu'ils croient concernant Dieu. Et du coup, ils se moquent de cette promesse vitale de Jésus. Jésus qui nous a promis d'aller chez son Père, de nous préparer une place, et ensuite de revenir nous chercher pour que nous puissions être avec lui, avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette promesse-là, c'est le cœur de notre espérance. Vous voyez comment leurs désirs ont conduit à une théologie, une façon de comprendre la foi, qui, à la fin, a sabordé la foi chrétienne. Et parce qu'elle a sabordé la foi chrétienne, elle mène des croyants loin du Seigneur, loin de la vérité, jusqu'à dans la perdition. Ces faux enseignants semblent se baser sur quelque chose d'empirique, quelque chose de scientifique même, quelque chose qu'ils ont observé, On lit au verset 4, « En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Comme s'il y aurait une sorte de cycle éternel qui ne change pas. Naissance, vie, mort, rebelote, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, énième génération. Toujours pas de jugement, Jésus toujours pas revenu. Rien ne change. Mais justement, nous dit, Pierre va nous dire, cette théologie qu'on peut appeler peut-être naturelle est dans les nuages, dans la confusion, volontaire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se soumet pas à la parole, à ce que la parole nous dit. Est-ce que la parole nous dit concernant sa propre œuvre, l'œuvre de la parole de Dieu? Le verset 5 nous dit, « De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. » Est-ce que vous voyez ce qu'ils font? Ils choisissent de manière volontaire de mettre de côté ce que Dieu a dit. Romains chapitre 1 nous parlera de la suppression de la vérité. On s'aveugle de manière volontaire. On ne veut pas savoir ce que Dieu a fait par sa parole. Et ce que sa parole nous dit de manière claire. Qu'est-ce que sa parole nous dit? C'est Dieu qui a créé ce monde. Il a fait par sa parole. Genèse chapitre 1, Dieu a parlé. Il a séparé les eaux et la terre. C'est Dieu qui a fait ça par sa simple parole puissante. Ensuite, au verset 6, Pierre ajoute... Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Et là, Pierre évoque le déluge, Noé, l'arche, et des milliers de personnes perdues dans ce jugement de Dieu. Et c'est la même parole de Dieu qui a fait ça. Et ensuite, Pierre nous dit que cette même parole de Dieu garde, réserve cette création, notre univers, pour ce jour de jugement. Un jugement qui, comme on va voir, dissoudra toute chose. Le feu emportera tout. Ce jugement aura bien lieu, nous dit Pierre. Il est aussi certain que la création elle-même. Si Dieu nous a créés, il demandera des comptes un jour. On vit dans son monde. Un monde où sa parole a eu le premier mot et où sa parole aura le dernier mot. Et vous savez, c'est de la folie d'écouter nos désirs à la place de cette parole. Et vous savez, c'est ce que nous faisons très souvent. On la remplace parfois avec une parole qui semble très rationnelle. Oh oui, ça me semble logique, ça me semble cohérent. Ou on la remplace parfois avec une parole qui nous semble spirituelle. Ah, j'ai... l'impression que l'Esprit me dit que je peux faire ça quand même. Ces faux enseignants qui sont eux-mêmes séduits par leur folie séduisent d'autres par cette même folie. Une folie si humaine. Adam et Ève ont succombé à cette même folie. Là, dans le jardin, leur désir a changé leur théologie, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu a été altérée, tordue, obscurcie. Par ce désir d'être comme Dieu lui-même, d'être à la hauteur de Dieu, voulaient s'ériger au même niveau, pour décider eux-mêmes, pour établir eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Et cette folie mensongère remonte loin. Et on est perpétuellement tenté d'y succomber, parce qu'on est bête. Et c'est pour ça que Pierre Martel, nous avons besoin d'une saine intelligence. Et pour avoir cette saine intelligence, on a besoin de revenir sans cesse à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. On a besoin d'être abreuvé sans cesse de cette parole. Quand on revient à ce que Dieu a dit, nous voyons en toute clarté la vérité. Cette vérité expose nos désirs et ensuite nous conduit à la repentance et à la foi en Christ. Ce Seigneur qui nous sauve de la colère à venir. Cette vérité est puissante pour nous changer, parce qu'elle nous montre le Dieu qui est là. Et quand nous voyons le Dieu qui est vraiment là, nous voyons sa bienveillance éternelle. Nous voyons sa fidélité. Nous sommes à notre deuxième section pour ce matin. La bienveillance de celui qui tient ses promesses. Et dans ces versets, dans les versets suivants, 8 et suivants, Pierre débusque l'erreur de ces faux enseignants Et il montre à ses lecteurs que la question des faux enseignants, c'est-à-dire où est la promesse de son retour, c'est une question qui révèle leur ignorance coupable concernant Dieu. Pierre commence en revenant au 90e psaume, celui de Moïse, où Moïse médite sur Dieu, sur la nature éternelle de Dieu. Verset 8, « Aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Vous savez, les faux enseignants se sont forgés un petit Dieu qui n'est pas celui de la Bible. Le Dieu de la Bible règne de manière souveraine sur le temps. C'est le propre de l'erreur, de l'hérésie, de forger un Dieu à notre image, un Dieu qui est bien plus petit que le Dieu vivant et vrai. De nos jours, la tentation, c'est de nous créer un Dieu qui nous sert, qui sert à nous bénir, à nous donner les désirs de nos cœurs. Dieu est transformé en un simple guichet de guérison, de bénédiction matérielle, émotionnelle, familiale, professionnelle. Les faux enseignants de nos jours nous enseignent que nous devons demander avec foi, déclarer avec foi, et Dieu nous accordera les désirs de nos cœurs. Et parfois sur Internet, à la télé, ils nous disent que si nous donnons de l'argent, Dieu nous montrera sa bénédiction. En réalité, un tel Dieu est un petit Dieu à nos ordres. Mais le Dieu biblique, le vrai, est beaucoup plus grand, beaucoup plus souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et il renverra son Fils en son temps, selon son timing. Et ce Dieu, le vrai, est un Dieu beaucoup plus généreux, beaucoup plus bienveillant que celui dans l'imagination des faux enseignants. Les faux enseignants d'alors et d'aujourd'hui. Le verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » En fait, ce délai n'est aucunement un signe de son impuissance ou de son désintérêt ou de son infidélité à ses promesses, mais bel et bien un signe de sa bonté imméritée, de sa patience bienveillante. Pierre puise dans des passages comme Exode 34, « L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et en fait, les meilleurs manuscrits pour de Pierre ont plutôt, il fait preuve de patience envers vous à la place de envers nous. C'est une petite différence, mais ça montrerait le souci pastoral de Pierre pour ses lecteurs. Pierre désire que ses lecteurs qui ont commencé à écouter ce faux enseignement qui les dévie de l'Évangile, se repentent pour qu'ils parviennent à cette repentance. Jésus n'est pas encore revenu parce que Dieu notre Père a compassion de ceux qui commencent à dévier de l'Évangile. Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus, mais qu'ils maintiennent leur ferme position, enracinée en le Sauveur, le Seigneur qui sauve. Et aussi de manière générale, cette patience s'applique à tous ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus. Peut-être même certains d'entre vous ce matin. Peut-être certains de nos enfants. Et bien d'autres personnes qui nous sont chères, qui ne sont pas encore au Seigneur. Dieu désire qu'ils parviennent à la repentance. Parce que la repentance, c'est ça l'application de l'Évangile. En quelque sorte, c'est l'application de toute la Bible, la repentance. Ce changement de cap où on dit non à ses désirs pécheurs, à cette rébellion à l'égard de la parole de Dieu, cet égoïsme, et où on se tourne vers Dieu, vers sa compassion, vers sa sainteté, vers sa justice, vers sa bonté qu'on voit en Jésus à la croix. Et on met notre confiance en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alors le Dieu vivant est vrai, le vrai est bien plus bienveillant que celui des faux enseignants. Ceux qui prêchent cet évangile du bien-être, cet évangile où c'est juste notre meilleure vie ici-bas, cette vie de bénédiction ici-bas. Sa compassion nous conduit non pas vers une vie centrée sur nous-mêmes, sur notre épanouissement personnel, sur notre bien-être. Et sa compassion nous conduit vers une vie centrée sur Christ, sur sa sainteté, sur sa justice, sur sa bonté, sur son désir de voir d'autres parvenir à la repentance pour être sauvés du jugement à venir. Et ça, c'est vital parce que, comme on voit dans la suite du passage, verset 10, ce jugement va venir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Pierre cite Jésus. Pierre était là au pied de Jésus. Pierre a bien écouté ce que Jésus lui a dit. Jésus a dit qu'il va revenir comme un voleur dans la nuit. À un moment inattendu, ces moquins avaient tort. Ils n'avaient même pas écouté l'enseignement de Pierre et de Jésus. Pierre évoque ce jour du Seigneur prévu dans l'Ancien Testament. Ce jour de salut pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui ont mis la confiance en Christ. Et ce jour de jugement, ce jour où Dieu va mettre les points sur les i, restaurer toutes choses. Pierre nous dit que Dieu va être fidèle à ses promesses, parce que la fidélité, ça fait partie de qui il est. Il est un Dieu fidèle. Il a promis de tout dissoudre. C'est vrai que l'image du verset 10 est bien effrayante, n'est-ce pas ? Bien effrayant si ce monde, cette planète, avec tout ce qu'elle contient, est notre espérance. Celui qui nie, qui mine, qui oublie volontairement ce jugement, cette dissolution à venir, sera forcément quelqu'un qui va être focalisé sur ce monde, sur cette vie, sur les œuvres, sur les ouvrages de cette vie. Il est un peu à la mode dans certains milieux évangéliques, plutôt intellectuels, de penser que nos œuvres humaines, nos ouvrages humains, tels que la belle architecture, les tableaux d'art, la littérature, la belle musique, que ces choses, ces ouvrages humains, vont survivre jusqu'à dans la nouvelle création, peut-être d'une manière purifiée. Mais ce passage, la parole de Dieu, nous montre que ce ne sera pas le cas. Tout sera dissolu. La terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée, sera exposée. On doit recevoir la belle architecture, la belle littérature, la belle musique comme des cadeaux de la part de Dieu. C'est vrai. On n'a pas à les mépriser. Mais Dieu ne veut pas que nos cœurs s'y attachent ou que nous focalisons nos efforts là-dessus. Il veut que nos cœurs soient ailleurs. Nous arrivons à notre dernière section. À quoi est-ce que Dieu veut que nos cœurs s'attachent au juste ? Et dans cette dernière section du livre, Pierre parle de notre réponse. Une réponse sage. Et nous verrons la sagesse de celui qui s'attache aux promesses de Dieu. Et la logique du verset 11 est limpide. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est logique parce que Pierre nous a montré plutôt que Dieu est fidèle à sa promesse. Jésus va revenir. Le Seigneur, le juge de l'univers, le Seigneur des siens, il revient, ces choses certaines. Et si ça, c'est la réalité, ça change tout. Ce jour devient le jour de notre espérance. Oui, c'est un jour de jugement cataclysmique. Ce monde ne sera plus, c'est vrai. Mais il sera remplacé, c'est ce qu'on voit au verset 13, par un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. La justice habitera. Pierre, par la parole de Dieu, veut que nous ayons une saine intelligence, que nous raisonnons de manière saine. Il ne veut pas que les nuages de confusion semés par nos désirs pécheurs nous envahissent et nous emportent. Et cette saine intelligence doit avoir la conviction que c'est sûr, Jésus revient. Jésus revient pour sauver les siens et pour juger ce monde. Cette ancienne création sera dissolue, mais il va y avoir une nouvelle création. Et cette promesse du Seigneur est fiable. Demain, je dois prendre l'avion pour rejoindre ma femme et mon fils aux États-Unis, chez ma belle-mère. Et l'avion est censé décoller à 10h40 de Roissy. Donc c'est l'avenir proche. J'ai un billet, tout est payé. Qu'est-ce que je dois faire d'ici là ? Qu'est-ce que je dois faire lors de cette attente ? Cet après-midi, je dois rentrer à la maison, faire mes valises. Je dois ranger un peu la maison, couper l'eau, etc. Ensuite, je dois me coucher pas trop tard parce que je dois me lever vraiment très très tôt le matin, peut-être à 4h30. si mon intelligence n'est pas saine, je vais me dire, Trevor, tu peux faire tes bagages demain matin, c'est pas grave. Tu auras le temps demain matin. Et vous savez, de toute manière, l'avion t'attendra. Mais non, ça serait pas saine intelligence. Non, ma compréhension de l'avenir, de mon avenir façonne le jour présent. Si je veux être sûr d'avoir cet avion demain, il faut que je m'y prépare cet après-midi et non pas demain matin. Et c'est la même chose pour toute la vie, nous dit Pierre. Notre Seigneur revient, c'est chose certaine. Et on sait qu'il a préparé une place pour nous, une place dans cette nouvelle création, cette nouvelle terre où la justice habitera. Notre avenir est avec Dieu. Et nous avons un Dieu de justice. Le mal sera banni. L'immoralité n'aura aucune place. Les mensonges, la jalousie, la haine, les paroles dures et méprisantes, les blagues graveleuses, la trahison, la violence, le vol, les abus de tout genre, les manipulations, l'exploitation physique, sexuelle, financière, la convoitise matérielle, la convoitise sexuelle, toutes ces choses n'existeront plus. On sera dans la présence de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la présence de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a purifiés, de celui qui nous a libérés de cette corruption. Voici notre avenir. Et Dieu est fidèle, fidèle aux promesses qu'il nous a données en Christ. Et Pierre nous dit que nous avons à attendre et à hâter ce jour-là. Comment est-ce qu'on hâte ce jour-là? Verset 14. En faisant tous nos efforts pour que Dieu nous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Ça, c'est le message du chapitre 1. C'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Le changement est possible. La transformation n'est pas facultative. Parce que Dieu veut que nous nous préparions à ce jour certain qui va venir. Ce jour de noces, nos noces, avec l'agneau, avec Jésus, l'Église avec Jésus. Ce jour quand la corruption de ce monde, la misère de ce monde, l'injustice de ce monde, toutes ces choses seront enfin finies. Pierre boucle la boucle. Parce qu'au chapitre 1, il nous a montré que Dieu nous a donné par la connaissance de Jésus, la connaissance de la grâce en Jésus, des promesses tout à fait sûres et fiables. Il nous a dit que par ses promesses, si on a cette espérance, si nos cœurs sont animés de cette espérance-là, on peut fuir la corruption, on peut mettre à mort ses désirs. Par ses promesses de grâce, d'espérance, nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu, dans la justice de Dieu, dans l'amour fraternel. Et toutes les Écritures, Ancien Testament comme Nouveau Testament, Pierre comme Paul, nous pointent vers cette espérance-là, vers cette promesse. Cette promesse comme quoi, si nous mettons notre confiance en Jésus, en son œuvre à la croix, si nous marchons à sa suite par la simple foi, Dieu nous ouvre, grand ouvert, les portes, par la grâce seule, les portes du royaume éternel. Et celui qui met sa confiance en Christ, qui a cette espérance, qui se sait pardonner entièrement, qui se sait aimer de Dieu, il ne va pas retourner en arrière, dans la boue, dans la corruption. Mais il va marcher vers Jésus, à la suite de Jésus, vers Dieu, vers celui qui est saint, vers celui qui est aimable, vers celui qui est généreux, vers celui qui est honnête, qui tient ses promesses, vers celui qui est patient. Et il aimera. Il aimera tout ce qu'il est. Il aimera sa sainteté, sa justice, sa pureté. Il fera des efforts pour lui ressembler. Pour terminer, est-ce que vous êtes captivés, animés, inspirés, motivés par cette promesse du retour de Jésus, par cet avenir sûr et certain, on sera dans cette nouvelle création où la justice habitera, dans la présence de notre Dieu. Est-ce qu'on vit aujourd'hui pour lui ressembler, pour ressembler à Christ, pour vivre en conformité avec cette justice, cette sainteté? Est-ce que notre avenir si sûr dicte aujourd'hui les choix de nos familles, nos priorités en termes de service chrétien, même notre manière de parler aux collègues demain matin? Est-ce que cette espérance nous donne le désir de témoigner, de dire aux autres qu'il y a bel et bien un jugement à venir, mais il y a un sauveur qui peut nous sauver? Ou est-ce que peut-être sans le savoir, ou sans être forcément influencé par un faux enseignant qu'on peut identifier, est-ce qu'on a quand même une sorte de nuage de confusion qui nous dit que pas notre vie va s'arrêter, plus ou moins notre mort? Du coup, il vaut mieux vivre pour cette vie, pour nos désirs actuels, les désirs de nos cœurs, le désir de la sécurité financière ou l'approbation des autres, l'influence sur les autres, le confort matériel. Il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on écoute la parole. Il faut qu'on écoute l'avertissement de l'apôtre Pierre. Pierre se fait des soucis. C'est pour ça qu'il a écrit 2 lettres à l'intention des croyants. Il veut qu'on parvienne tous à la repentance. Dieu veut qu'on parvienne tous à cette repentance. C'est pour ça qu'il patiente. C'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu. C'est pour ça qu'il nous a donné cette parole qui nous avertit, qui nous pointe sans cesse de manière bienveillante vers Jésus, le Sauveur dont nous avons besoin. Toute la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, Pierre, Paul, pointe vers Jésus. Ce Seigneur qui sauve, ce juge qui sauve, ce frère qui revient nous chercher. Et Pierre veut qu'on grandisse dans la grâce, dans la connaissance de cette grâce. On a cette grâce. Jésus a tout fait à la croix. Son sacrifice est suffisant pour que nous puissions être avec Dieu dans l'éternité. Cette espérance est sûre et certaine. Elle dépend de ce que Christ a fait. À nous de nous accrocher à cette espérance, à cette promesse, et de marcher à la suite de Jésus. Prions que Dieu, par sa parole, nous donne jour après jour cette saine intelligence dont nous avons besoin. Prions. Notre bon Père Céleste, tu vois que bien souvent, cette saine intelligence nous manque. Nous sommes dans nos nuages, les nuages de nos désirs conflictuels. C'est vrai que nous sommes à la fois nés de nouveau, nous avons l'esprit, nous sommes justifiés, mais en même temps, nous avons ces désirs pécheurs. Le péché nous enveloppe si facilement. Nous oublions la venue si certaine de notre Sauveur. Et comme bien des gens autour de nous, on vit selon nos désirs. On est la proie parfois d'enseignants qui nous promettent le bonheur ici-bas, la bénédiction matérielle ici-bas. Là, nous voulons te demander de nous aider à fixer nos yeux sur Jésus, ce Sauveur qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, ce Sauveur qui est le Seigneur de l'univers, le Juge de l'univers et qui revient. Donne-nous même cette semaine à fixer nos yeux sur lui et par lui, par l'amour que nous avons en lui. Donne-nous de nous aimer les uns les autres, de fuir ensemble la corruption de ce monde. Donne-nous d'aimer ceux qui nous entourent cette semaine et à leur donner cette parole de vie, de salut, de la colère à venir. Donne-nous du courage, mais donne-nous ce courage en fixant nos yeux sur Jésus. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils. Amen.